Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. L'homme se dit, un dieu qui vient de naître ne peut avoir de vêtements. François continue et lui dit, il sait que l'autre est pris et peut lui dire n'importe quoi. J'ai perdu mes vêtements. C'est-à-dire que j'étais avec des amis. Nous sommes venus en voiture, nous avons pris un bain de minuit et ils sont partis avec mes vêtements. Je sais comment faire. Je peux tout de même pas rester comme ça. Ce serait ennuyeux. Je lui dis, en tout cas, pas pour les autres. Vous êtes merveilleux. Merci, mais je lui dis, je peux aller vous chercher quelque chose. Je dois avoir quelque chose à votre taille. Mais je n'ai pas de carte sur moi. Aucune importance. Je tiens à vous aider. Attendez, je viens. Cachez-vous. Vous allez créer une émeute. Suis-je repoussant? Bien au contraire. Cachez-vous. Je reviens. L'homme se retire. Puis, François retourne à l'eau, cacher sa nudité. L'homme revient avec une couverture. Il enveloppe le beau Dieu dedans et le mène à l'autel. L'hôtesse le voit et lui demande « Qu'est-ce que c'est ?» L'hôtesse est une grande femme, très distinguée, avec une robe noire, cheveux châtains. L'homme lui dit « Un accident, ce jeune homme est tombé dans le lac. Je vais le mener à ma chambre et il se rhabillera. » Elle lui dit « Belle prise, comment dit-on une sirène en mâle ?» Et il le mène à sa chambre, qui est au premier étage. Entrée. C'est décoré montagnard. Tout le chalet est décoré de montagnard. D'ailleurs, vous connaissez déjà l'établissement, puisque vous y étiez allé plusieurs fois depuis les années 80, même 1980. Alors, je ne m'en vais pas vous les décrire. Il fait allonger François sur le lit et lui dit qu'il a faim. L'homme va faire venir un petit déjeuner bien copieux. Un quart d'heure plus tard, la femme lui apporte un petit repas. Elle voit le jeune homme dans le lit et dit « Voilà, une belle pièce, une belle œuvre d'art. » L'homme lui a demandé sa taille et est allé lui chercher des vêtements, chaussures, chemises, etc., sous-vêtements, etc., etc. Pendant ce temps, François mange et se repose dans la chambre. L'homme revient et lui donne les vêtements à François. Il a un costume beige, chemise blanche. Lorsqu'il le voit s'habiller, il lui dit « C'est vraiment la dernière fois que je vous vois, que je vois votre corps. N'allez pas trop vite. » Une fois habillé, il se présente « Monsieur de Jean-Jus, ambassadeur extraordinaire du pape, écrivain, en vacances. » Et vous, jeune Dieu ? François lui dit qu'il est orphelin et fils d'une grande famille, mais qu'il n'a plus rien. Monsieur de Jean-Jules lui dit, comme tous les dieux, vous êtes orphelin. Le mépris. Il se moque de ce que peut être et d'où vient ce jeune Dieu. Ce qui compte, c'est qu'il soit près de lui. Le Jean-Jules lui dit, écoutez, je vais vous aider. En quelque sorte, je vous aiderai. François soupire et lui dit, merci. Vous pourriez essayer de devenir mon secrétaire particulier. François lui dit, je vous remercie, mais je ne sais pas si je pourrais je serais peut-être pas assez calé. » Jean-Jules lui dit « Bien sûr que vous l'êtes. Nous ne demandons pas à un secrétaire particulier d'être secrétaire. C'est d'être agréable et qui sache se tenir. Vous êtes délicieux. Dites oui. » François lui dit « Bon, eh bien, oui. Bien, nous partons demain pour Lyon. C'est là que j'habite. Vous coucherez dans le lit et moi dans le fauteuil. Mais je le veux. » Et il passe la journée tranquillement. François n'ose pas sortir de la chambre de peur d'être vu par Marc et Jean-Pierre. Il dit à M. de Jean-Jus qui veut se reposer. « Vous avez raison. » Il passe sa journée dans la chambre à discuter. M. de Jean-Jus est tout excité. Il ne sait plus où il en est. On prit le repas dans la chambre. La nuit a été douloureuse pour M. de Jean-Jus. Couché près d'un demi-dieu, pour François, il a dormi comme une souche. Pendant des mois, il a couché, nu, à la belle étoile, ayant froid la nuit. Maintenant, il est dans un lit. Puis, le matin, après son petit déjeuner, ils sont partis. Le voyage se passe bien. Ils arrivent à Lyon. Lyon, capitale internationale de l'anarchie, est devenue pire qu'une cour des miracles. La terreur y règne. Des ruines, des bidonvilles, des camps de nomades, du sang, des cadavres. Le Rhône, la Saône, transporte des cadavres en plus des encombrants, meubles, voitures, etc. Plus rien ne marche. Les bords du Rhône ressemblent aux berges du Gange, en plus dégueulasse. Les gens guenillent. Campe avec des cartons, des cadavres de partout. Il y a des cabanes en tôle. On prépare des repas à mettre le sol. On y joue de la guitare. On se baigne dans l'eau grise et tachée de sang avec les cadavres. L'on est nu. Des ponts à moitié démolis. Les universités en ruine. Elles ont brûlé. L'hôtel 2 a été incendié. ne reste qu'un bout de façade. C'est lui, il y a des manifestations qui se terminent en émeute. Le Mont-Tremblant a de grosses difficultés à rénover. Il est obligé, c'est de faire appel
quelque chose.
À des mutants. Pour garder les chantiers. La place Bellecour est devenue un bidonville. La rue de la République, un immense marché de voleurs. Le vieux Lyon est délabré, occupé par des jeunes qui font de la culture alternative, c'est-à-dire de n'importe quoi. De l'opéra, il ne reste qu'une carcasse de métal, avec des jeunes qui s'amusent à l'escalader. L'hôtel de ville est à moitié en ruine. Il ne reste que le bas. Les drapeaux noirs qui flottent comme à la préfecture. La place des terreaux est devenue un camp d'hindous. La fontaine transformée avec des chiffons jaunes en lieu de culte et de bain. Le vieux Lyon, les pentes de la Croix-Rousse, le siège international anarchiste, etc., etc. Vous connaissez déjà tout ça depuis Violence et Crépuscule et l'élu. Monsieur de Janju arrive à Lyon par les quais du Rhône. François se dit qu'il est de cette ville. Son père a été un leader gauchiste anard. Il en a honte. Monsieur de Janju lui dit, n'ayez pas peur, Lyon est comme ça. Mais moi j'habite dans un coin tranquille. Les anards sont des fils de bourgeois dont les parents habitent le sixième. Ils savent que leur famille n'aimerait pas qu'ils fassent la pagaille chez eux. Autrement la famille leur couperait leur vivre. Et oui, on est anard, mais on aime l'argent de papa-maman. Ils sont dans les affaires, comme eux, plus tard. Au moment, ils s'amusent. Mais ils savaient que leur chef deviendrait PDG, prof. M. de Janju le mène au boulevard des Belges, à l'angle de la rue Garibaldi, près de l'entrée du parc de la Tête d'Or. Sa voiture, non, sa maison, se trouve à droite. Elle est très belle, en pierre jaune. Il a une entrée qui donne directement au parc. Connaissez déjà cette maison que si vous y êtes entré plusieurs fois dans les lieux. Belle demeure meublée avec des meubles de bon goût, Louis XV, objets d'art, etc. Il vit isolé de tout. Moi, je suis ébloui par cette façade de cette belle maison. Dans la petite cour, un jour, j'y ai vu qu'il y avait une fête de jeux de bien. Les grandes fenêtres de côté se trouvent des rideaux était à moitié ouvert, on y voit un joli décor intérieur. Monsieur de Janju va arrêter sa voiture vers l'entrée de sa maison. Le chauffeur est en congé, c'est pour ça qu'il l'a conduit, lui dit. Nous sommes arrivés, venez. Sorte de voiture, lui dit. Mon domestique est en congé, lui aussi. Il ouvre le petit portail. Ils entrent. Et le mène vers l'entrée de la maison en montant un petit perron. Il le fait rentrer dans la maison. François est tout de suite ébloui par cette demeure. Cela vous plaît ? Oui, beaucoup. Venez, je vais vous montrer votre chambre. Et il lui donne une chambre au premier étage. Entrez. C'est une belle chambre. Louis XV, très jolie, elle est à côté de la sienne. Puis, M. de Janjou et François se reposent dans leur chambre. Après, ils vont prendre un repas à la salle à manger. C'est M. de Janjou qui est allé à la cuisine prendre le repas au réfrigérateur. Et la vie commence pour eux deux. Monsieur de Janjou est tout excité, papillonne autour de son bébé. François a compris qu'il fallait jouer à la poupée. Il a décidé de lui offrir une belle garde-robe. Alors il le mène chez couturier, chemisier, bottier, etc. Il leur dit, c'est pour mon secrétaire, il faut absolument qu'il soit parfait. François est ébloui par tout ce luxe. Monsieur de Janjou ne sait plus où il est. Il a toujours devant les yeux ce corps nu et beau sortant de l'eau et se dit « C'est à moi qu'il est. » Puis il lui dit « Vous voilà Paris. » François lui dit « Malheureusement, je n'ai pas de carte. » Monsieur Janjou lui dit « Ne vous faites pas de soucis. Je vais aller à Paris voir le ministre et tout va être arrangé. Vous appelez comment déjà ? François Ducourt. Le lendemain, M. de Janjou prend le train pour aller voir son ami le ministre de l'Intérieur. Arrivé à Paris, il téléphone pour un entretien avec le ministre. Le ministre pense que c'est une histoire diplomatique avec le pape. Il accepte de le recevoir le jour même, parce qu'il pense que c'est urgent. Monsieur le ministre, pour aller voir Monsieur de Janjou, pour aller voir le ministre, prend un taxi. Arrivé au ministère, on le mène au bureau du ministre qui le reçoit de suite. Le ministre est celui que vous connaissez déjà. Venez vous asseoir, mon cher monsieur de Janjou. Monsieur le ministre. Juste est assis en face du bureau. Le ministre lui dit, je vous écoute. Janjou lui dit, J'ai un service à vous demander. Je vous écoute. Voilà, j'ai embauché un secrétaire très particulier, très bien de sa personne, mais il n'a pas de carte. Pouvez-vous lui en faire une ? Le ministre surpris lui dit, oui, bien sûr, mais comment est ce jeune homme ? Ce Jean-Gilles lui dit, il est charmant. Et vous l'avez connu ? Comment ? Il est sorti des eaux, nu comme un ver. Le ministre fait, c'est original pour un secrétaire. Il se dit, ce Jean-Jules prend des garçons qui sortent de l'eau. Et d'où vient-il?
De nulle part, de l'eau.
Il se dit qu'il est complètement taré. Il dit, j'espère que c'est qu'il n'est pas trop jeune.
Oh, non, disons juste l'âge limite.
Bon, son nom.
François Ducourt.
Le ministre se souvient de ce nom. Il se dit encore lui. Puis se dit que s'il est avec M. de Jean-Jus, c'est comme s'il était intouchable. Parce que M. de Jean-Jus est l'ambassadeur extraordinaire du pape. Mais que sûrement il n'osera pas le nuire en demandant des nouvelles de sa fille. Et puis M. de Jean-Jus doit le surveiller, il le veut à lui. Alors lui dit, bon, et il est où en ce moment?
Chez moi, à Lyon.
Il se dit que même s'il veut le prendre, il ne le peut. Il est chez l'ambassadeur du pape, donc intouchable.
Je vais donner des ordres pour qu'on fasse une carte et vous viendrez la prendre. Mais faites attention à vos relations. Vous risquez, c'est d'avoir des ennuis.
Ce Jean-Jules lui dit, ça fait partie de mon personnage et tout le monde le sait.
Pendant que M. de Jean-Jus est à Paris, François sort dans Lyon. Un soir, il va dans la rue près de la primartiale Saint-Jean. L'esplanade de cette primartiale est peuplée de bandes de jeunes. On voit qu'on chante, danse, font la manche, c'est dégueulasse, pleine de saleté. De partout. L'esplanade est devenue un lieu de rendez-vous arabo-indo collectif anarchiste alternatif. On y fait des concerts bizarres, il y a des expos de graffiti artistique collectif alternatif. La façade de la primartiale est pleine d'affiches de graffiti. C'est pour le collectif de l'affichage libre pour le peuple. La plupart des affiches sont des affiches de concerts et ça permet, c'est d'afficher des grands concerts et de faire de la pub gratuitement à des grandes maisons de production qui se profitent de l'affichage libre pour le peuple. Voyez les affiches sauvages. Elles sont à 80% des affiches de concerts, genre, groupe, rap, connus, très connus même, chanteurs médiatisés à fond, et non des affiches d'artistes inconnus. L'affichage libre a été créé pour les gens qui n'ont pas les moyens de se payer des places pour afficher, et ce sont les grands financiers qui se servent de l'affichage libre pour ne pas payer de place pour afficher leurs affiches. Il y a aussi plein de graffitis. Graffitis de collectifs, pour la plupart, contre la pub, etc. François voit tout ça. La fontaine, qui est devant la primartiale, est démolie. Il s'apprête à s'en retourner, lorsqu'un jeune homme, grand, mince, tête ronde, cheveux courts en brosse, lunettes métal, habillé d'un jean et d'un pull gris, lui demande « Tu as du feu ?» François lui dit « Je ne fume pas. » L'homme lui dit « Tu en as la chance. Moi je fume parce que je pue de la bouche. Je sens le moisi. » Depuis mon accident, j'ai perdu la mémoire. Je sens cette odeur dans la bouche, comme si on m'avait mis de la terre dans la bouche. Je lui demande, un accident? T'es tombé? L'homme lui dit, oh, je me suis retrouvé dans un chantier, dans un puits plein de ciment, la tête pleine de sang. J'ai dû tomber, oui. François lui dit, ça arrive. Oui, je m'appelle François. Et toi? Moi, Jean. François lui dit, bien. Jean lui dit, bon ben, si tu veux, tu peux venir chez moi. Demande, tu habites le quartier? Oui, la maison en face. Elle fait langue. Il y a le café en bas. Viens. Et il le mène. L'immeuble est ancien, disons du peu 20e siècle, mais il est bien conservé. Il ouvre la porte de son allée et le fait entrer. Grand hall, carré, avec des boîtes aux lettres. Il va vers une porte qui est fermée à clé. Il va aux escaliers. Il le fait monter jusqu'au deuxième étage. Là, au deuxième étage, il ouvre la porte de droite. C'est un grand couloir tout noir. Jacques lui dit, avant j'avais ma mère qui vivait avec moi. Maintenant je vis seul. Je lui demande, ta mère est morte? Je ne sais pas, parce que je suis revenu ici, elle avait disparu. Viens, on va dans ma chambre. Il longe le couloir
du couloir, il y a une porte. Entre. C'est une grande pièce, en fait deux pièces, qui est faite en une. Il y a tellement de choses qui est difficile de décrire, voir l'élu ou la vidéo tragédie solo. Disons, pour faire vite, un lit et une place en fer contre mur. Au-dessus du lit, il y a des cartes postales, beaucoup de cartes postales, du matériel IFI, télévision inter, de partout il y a du matériel IFI, une grande table, trois fenêtres, il y a même un panneau de défense de stationner, etc., etc. Ça donne un côté bizarre, étrange, mais sympathique. Jacques lui dit, tu peux t'asseoir sur le rebord du lit. C'est ce que fait François. Et Jacques prend une chaise pour s'asseoir en face de lui.
Tu vois, j'habite ici. Ici, c'est chez moi. Ma chambre. J'y habite depuis toujours. Avant, je travaillais chez un cartonnier à Gerland. Puis l'entreprise a fermé. Alors j'ai cherché du travail. Il n'y avait rien. J'ai eu l'idée, c'est de devenir détective privé. Faire des enquêtes comme ça, suivre les gens, cool. J'ai mis mon bureau ici. Un jour, j'ai eu la visite d'un client qui m'a demandé d'enquêter pour une filature. Je ne me souviens plus de quoi c'était. J'y suis allé et puis je me suis retrouvé dans ce trou. Mais c'est loin tout ça. Je ne me souviens plus de rien.
Demande. On t'a ramené ici?
Non, je me suis retrouvé dans le chantier et je suis venu ici par moi-même. Mais j'étais plus le même. Les choses que je voyais, j'y voyais changer, comme si les temps les avaient changé, vieilli. Je ne les reconnaissais plus. Une drôle d'impression, comme si je revenais dans long voyage, oui, dans long voyage. Revenir après des années. Et puis des douleurs de partout, surtout au ventre. Des besoins étranges, comme celui de manger de la viande. Lorsque je suis revenu ici, je n'ai plus reconnu les gens, personne. Et les gens ne me reconnaissait pas. François lui demande, t'as fait des recherches? Demandé à la police? Ça paraît très difficile que je demande des recherches à la police alors que je suis détective privé. François lui dit, pourtant il faut bien que tu saches, en tout cas, pour ta mère, savoir ce qu'elle est devenue. Oui, bien sûr. Je crois qu'elle a dû être enlevée par des gens. Celui qui m'a commandé cette enquête était un grand de la haute. Je crois que c'était M. Pontois. François lui demande, quel Pontois? Jacques lui dit, Félicien Pontois. Mais c'est impossible, Félicien Pontois est mort depuis longtemps, je ne sais pas moi, peut-être 100 ans ou plus. C'est peut-être un de ses descendants, Jacques lui dit. Pense pas. D'ailleurs, j'ai sa carte. Il sort de son tiroir de la table de nuit une carte et la lui montre. François lui dit, oui, c'est bien sa carte, mais elle a peut-être été volée par quelqu'un. Ce n'est pas une preuve, ça. Mais c'est étrange. Se faire passer pour une personne morte depuis plus de 100 ans, Jacques lui dit, dans un journal. Le Progrès, j'ai vu sa photo, et sur Match aussi.
Et c'est bien la preuve que c'est lui qui m'a rendu visite, parce que j'ai reconnu. C'est bien lui.
François lui demande, « Mais comment peux-tu le savoir, puisque tu dis que tu as perdu la mémoire ?»«
C'est peut-être en rêve. » Jacques lui dit, « J'ai perdu la mémoire, mais comme un accidenté. C'est-à-dire que je me souviens des choses d'avant mon accident, je ne me souviens pas de mon accident, et puis j'ai un trou de mémoire après mon accident. Et puis, j'ai la preuve que Pontois est venu me proposer son enquête, parce que sur son papier, alors,
ça lui dit, ça ne peut pas être lui.
C'est impossible. Il est mort il y a plus de 100 ans, peut-être 120 ans. Et toi, tu fais à peine 25 ans. Alors,
Jacques lui dit, je ne sais pas. J'ai beau chercher, je ne vois pas.
François lui dit, tu devrais, c'est chercher les Pontois.
Mais il n'y a plus de descendants. Tous des dégénérés, des fous. Ils sont morts, sans descendants.
Que vas-tu faire?
Rien. Comment tu vis?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai des trous de mémoire de mes journées. C'est étrange. La nuit, je dois sortir. Et le matin, je me réveille ici sans savoir ce que j'ai fait de mes nuits et comment je suis rentré chez moi.
C'est peut-être une drogue? Tu bois?
Je ne sais pas.
François se dit qu'il a perdu la mémoire et ne sait plus où il en est.
Il se lève et lui dit,
il se fait tard, je dois rentrer.
Bien, je vais te raccompagner.
François lui dit, ça ne m'en vaut pas la peine.
Jacques lui dit, de toute façon, je dois sortir. Je dois sortir tous les soirs.
Et il se lève.
Ils sont sortis de l'appartement et de l'immeuble.
Jacques lui demande, où vas-tu,
François?
François lui répond, je vais du côté de la rue Garibaldi, vers le parc. Je t'accompagne au moment.
Et il se met en route.
Il fait sombre, presque pas de lumière, peu de passants.
La nuit, les gens s'attendent à avoir des émeutes alternatives, etc. Il passe le pont, longe la place des terreaux.
Vont prendre les quais du Rhône jusqu'au cours Lafayette. Et là, ils vont aller jusqu'à la rue Garibaldi en suivant le cours Lafayette. Ils marchent en silence. François voit que Jacques semble fatigué. Son teint devient terreux. Il semble plus maigre. Il marche en hésitant. Ses yeux sont pleins de sang. Tout à coup, en passant devant une allée, une vieille allée, Jacques attrape à l'épaule. François lui dit,
viens.
Où?
Entre.
Il fait entrer dans une allée qui n'est pas fermée. C'est une allée, vieille allée, pas très propre et mal éclairée. Jacques, une fois qu'ils sont rentrés dans l'allée,
Jacques, pouffe le pauvre François contre le mur. François voit son visage étrange et blanc. Il panique et lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Jacques ouvre la bouche et se penche. François panique. Il a juste le temps de retirer son cou et de lui donner un coup de pied dans le ventre. Ah ! Jacques a reculé. Il se tient le ventre. François profite pour courir vers la sortie. Mais Jacques lui court après. François ouvre la porte. Jacques le tire à l'intérieur. François, de ses deux mains, maintient la porte. Et d'un bond, il a pris son élan de ses mains, donne à Jacques un coup de rein qui le fait tomber à la renverse. François en profite pour quitter l'allée et court dans les rues désertes. Il n'ose pas regarder si l'autre le poursuit, se fout furieux. Mais qui est Jacques ? Il se dit que c'est peut-être un zombie ou un mouton et que son cerveau ne fonctionne plus bien et qu'il a pris la personnalité d'une personne qui a vécu il y a bien longtemps, du temps de Monsieur Pontoise. Chez Monsieur de Janjou, il se couche de suite. Monsieur de Janjou revient le lendemain matin, alors que François est au salon à prendre son petit déjeuner en robe de chambre beige. Le visage encore légèrement plein de sommeil. Monsieur de Janjou est heureux de le revoir. Il lui dit « Pour ta carte, c'est bon, le ministre va nous l'envoyer. Il était surpris que j'ai fait ta connaissance en te voyant sortir de l'eau, nu, mais c'est bien. » Puis dans la journée, M. de Janjou lui fait visiter à François les lieux où ont vécu les Pontois, la maison sur les pentes de Fourvière, belle maison qui est devenue un musée, puisque M. Pontois est un homme qui a failli avoir le prix Nobel de la paix, est un bienfaiteur de l'humanité. La maison se trouve au fond d'un parc, elle est restée telle que vous l'avez connue dans Violence et Crépuscule, avec les mêmes meubles. Interdit au public. Il y a un garde en permanence. On lui montre aussi les usines Pontoise et Dieppe à Gerland. Là se trouvent que les usines de fabrication d'aliments Biotech Plus. Le reste est éparpillé dans le monde. L'entreprise Dieppe qui est à côté et qui s'est jumelée avec la maison Pontoise. On a ouvert le mur qui les séparait, fabrique à Gerland uniquement des produits pharmaceutiques. Le reste aussi est éparpillé dans le monde. Ces deux usines sont immenses et font quasiment la superficie de Gerland.
nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.